Naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Histoire Naturelle. Bonjour Florine Lemarchand.
Bonjour.
Donc tu es doctorante à l'université de Caen au sein du laboratoire LASLAR, c'est ça ? L-A-S-L-A-R, Lettres, Arts du Spectacle et Langue Romane, sous la direction de Claire Le Chevalier. Et donc tu rédiges une thèse de littérature comparée. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton sujet de thèse ?
Oui. Alors, donc je travaille sur, j'étudie les représentations de l'enfance et surtout des lieux de l'enfance dans les romans français, allemand et anglais de la première moitié du XXe siècle. Donc c'est effectivement c'est la littérature comparée, donc je cherche vraiment à comparer les représentations pour comprendre d'une part ce qu'elles disent de nos sociétés, et puis je m'intéresse aussi à l'écriture, donc il y a un peu une part d'esthétique, donc mon idée c'est aussi de chercher quelle nouvelle écriture, quel procédé d'écriture les romanciers mettent en place pour parler à ce moment-là des lieux de l'enfance.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette recherche particulière sur l'enfance ?
Alors, je dirais qu'il y a déjà mon travail de mémoire. Alors, je ne travaillais pas du tout sur ce sujet-là, mais en fait, il y a des thèmes qui, à mon avis, m'y ont amené. Je travaillais sur le lien entre quête et intertextualité. Donc c'était déjà un sujet de littérature comparée. Et en fait, j'ai notamment beaucoup réfléchi au mythe de l'âge d'or, à la façon dont ce mythe circule. Et j'ai vu qu'il était très souvent lié, d'une part, à l'insularité, à l'image de l'île, et d'autre part, à l'enfance. Et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser au rapport entre enfance et espace à ce moment-là. Après, je pense qu'il y a aussi une dimension personnelle. Souvent, nos sujets de thèse ont aussi une racine un peu personnelle. Et je pense que ça m'a parlé. Et puis, finalement, j'avais vraiment envie de comprendre ça, de comprendre pourquoi dans nos sociétés, d'une part, on a un rapport très nostalgique à l'enfance, mais aussi à ces lieux. J'ai tendance à penser que quand on pense à notre enfance, on la lie directement à l'espace où on a vécu.
Pourquoi ce choix de la délimitation français, anglais, allemand, c'est un choix personnel ?
Il y a une part de méthodologie, c'est-à-dire que c'est les langues que je parle, que je peux comprendre, puisqu'en littérature comparée, il faut aussi étudier le texte dans sa langue d'origine. Mais c'est aussi un choix qui est motivé par justement un constat qui est que à cette époque-là, dans les trois pays, et après ça peut se vérifier aussi dans d'autres pays d'Europe, je pense aussi à l'Italie par exemple, dans les trois pays il se passe quelque chose à la fois au niveau du discours sur l'enfance, la place que prend l'enfance dans la société mais aussi dans la littérature, et en même temps de la tension qu'on porte à l'espace qui devient aussi important dans la littérature. En fait, il y a par exemple la chercheuse Hélène Kay qui parle du XXe siècle comme du siècle de l'enfant. Et donc, moi, je voulais déjà voir pourquoi est-ce que au XXe siècle, d'un seul coup, on s'intéresse beaucoup plus à l'enfant et comment ça se manifeste dans les représentations. Et j'ai vite vu qu'il se passait quelque chose au niveau des espaces, au niveau des lieux de l'enfance. Et donc, je me suis dit, où il y a un truc à explorer. On donne à ce moment-là beaucoup plus d'importance au lieu, au monde de l'enfance.
Chapitre 8. L'aventure. Moln poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois seulement, une pie s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin, sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudées sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid qui traversait maintenant la couverture, Moln reprit ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé.
C'est l'image d'une enfance absurde et cruelle, en fait, cette période.
Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que de ce que j'ai pu constater en lisant les différents romans que j'ai sélectionnés, et j'ai essayé de faire un panorama le plus exhaustif possible, c'est qu'en fait, ces souffrances qui peuvent toucher l'enfance à cause notamment des deux guerres mondiales, elles sont très peu représentées. Et en fait, par exemple, dans les romans allemands, elles arrivent à partir de 1945, justement. Et alors, ça peut s'expliquer d'une part parce que, en temps de guerre, les romanciers écrivent moins ou ont plus de mal à les publier, par exemple. Donc, ça fait déjà un décalage. Mais c'est plus profond que ça, je pense, et j'ai l'impression qu'on essaie justement de lutter contre l'absurdité du monde, la violence qui touche aussi l'enfance, par des images au contraire idéalisées et idéales de l'enfance.
On va parler un petit peu de ces lieux de l'enfance en question, si chers aux écrivains du XXe siècle. Et donc ce qui est intéressant pour nous dans ce podcast, c'est de voir un peu les lieux qui traitent des espaces de nature et quel type de représentation tu as pu rencontrer de cette nature de l'enfance.
Alors, en fait, ce qui était très frappant, c'est que les espaces naturels sont vraiment omniprésents dans tous les romans que j'ai pu lire. C'est un constat qui a été fait par plusieurs chercheurs et chercheuses aussi, et notamment la campagne. Vraiment une très très grande majorité des romans sur l'enfance écrits dans ces trois pays dans la première moitié du XXe siècle se passent en milieu rural, donc très souvent dans un village, mais on voit souvent l'enfant galoper dans les champs par exemple. Et en fait ce qui est très marquant, c'est que les enfances campagnardes, rurales, sont souvent montrées comme particulièrement heureuses. Donc ça, c'est vraiment... Et en fait, c'est une représentation qui change par rapport à celle de la fin du 19e siècle. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu, notamment en France, les représentations de la deuxième moitié du 19e siècle, on a beaucoup plus des enfants qui vivent en ville, qui sont des enfants victimes de la société. Et donc, on a cette rupture où, d'un seul coup, on voit des enfances heureuses à la campagne. Et puis, on va trouver quelquefois des enfances un peu plus exotiques. Alors, notamment dans les îles, mais c'est plus rare parce que je pense que les romanciers avaient plus ou moins conscience que c'était déjà un stéréotype et donc s'en détachaient. Mais on a ces enfances exotiques dans les îles et puis les enfances aventureuses qui vont être à la montagne, à la forêt. Mmh. Donc, ces espèces-là sont un peu systématiquement transformées quand ils sont associés à l'enfance.
Et c'est vrai que les figures du 19e siècle, c'est Les Misérables chez Victor Hugo. C'est des enfants qui ont une vie terrible et en ville en plus. C'est complètement différent de l'enfance proustienne, par exemple.
Oui, tout à fait. Ouais.
Est-ce qu'on voit un peu cette nature refuge dans l'enfance? Est-ce qu'elle est décrite telle qu'un refuge?
Oui, complètement. Dans la relation que l'enfant va nouer avec la nature, c'est toujours une relation très épanouissante qui soit va être un refuge, comme tu dis, lorsque sa situation familiale par exemple est moins heureuse, soit est tout à fait en accord avec au contraire le cocon dans lequel il vit qui est son monde tout entier. Donc souvent la nature est en fait c'est un peu montré comme un microcosme, un monde en miniature. Donc on a beaucoup des lieux un petit peu insulaires, justement, des images de cercles, de berceaux, vraiment dans la symbolique de ces lieux protecteurs. Et c'est rare. Alors il y a quelques romans où la nature va être menaçante ou liée au malheur de l'enfant, mais comme tu dis, c'est vraiment des lieux qui sont montrés comme des lieux du refuge. Et on peut même aller plus loin et se dire que les romanciers, en cherchant à représenter ces lieux de l'enfance, cherchent aussi un refuge dans l'écriture et dans le passé dont ils font finalement un pays. Ils arrivent à transformer le passé en espace grâce à leur écriture.
Que tout à l'heure tu me parlais d'un des livres de ton corpus, Le Grand Maulne, et en fait moi je me posais la question de la forêt dans les romans. Souvent la forêt par rapport à l'enfance c'est un espace un peu effrayant, mais dans Le Grand Maulne, comme tu m'en parlais, moi quand je l'ai lu, c'est vrai que c'est un lieu plutôt d'évasion et puis de liberté.
Oui, tout à fait, et un lieu qui va mener aussi au domaine mystérieux, donc à l'émerveillement. Alors pareil, dans un roman que j'aime bien, il s'appelle « Decline of Passion » de Ernst Wischert, qui est un auteur allemand. La forêt, alors, c'est un lieu qui pourrait sembler menaçant, mais pas pour l'enfant, et donc c'est un lieu en fait complètement enchanté, où l'enfant, que l'enfant perçoit comme un monde sacré, où vivent des dieux, où vivent des géants verts, qui sont les arbres. Et donc il y a plus cette image-là. La forêt, finalement, on retrouve un petit peu tout l'imaginaire des contes de fées, mais moins dans le côté effrayant et plutôt dans le côté enchanté. Et après, chez Colette, par exemple, dans Claudine à l'école ou dans Claudine en ménage, au contraire, les bois, la forêt vont même être des espaces tout à fait amicaux. Qu'elle associe vraiment au bonheur de l'enfance et qui vont l'aider à se construire.
Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. Première partie, Combray. Chapitre 1. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour.
Et pour les espaces de la mer, par exemple, j'ai l'impression que dans les romans que j'ai lus, c'est souvent pour l'enfant, c'est souvent une limite qu'on ne peut pas dépasser. L'enfant ne peut pas aller plus loin qu'au-delà de la mer. C'est un peu une sorte de frontière pour lui, mais c'est souvent un lieu où, du retour à l'enfance pour l'adulte.
Oui, oui, c'est très juste, parce qu'effectivement, la mer, qui est souvent liée à l'image de l'île, la mer, c'est exactement ce que tu dis, c'est à la fois le lieu de l'évasion ou le lieu de la frontière qui empêche cette évasion. Donc ça peut être à la fois la limite et le seuil. Et c'est des idées, des symboliques qui sont utilisées dans les deux sens, en fait, dans les différents romans que j'ai pu étudier.
Oui, donc moi ce qui m'intéressait aussi, enfin, je ne sais pas si tu as étudié un petit peu ça, c'est le retour au pays natal de l'enfance, enfin, à l'origine. Moi c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, donc je pense que ça doit questionner les écrivains.
Oui, bah, je t'avoue que c'est une des questions qui m'intéresse le plus. En fait, quand j'ai fait un état des lieux de la question, quand j'ai regardé un petit peu toutes les représentations qu'on pouvait voir dans les romans, j'ai constaté deux tendances, c'est-à-dire les romans où l'écrivain présente un personnage enfant et donc son monde, et puis celles où on va retrouver plutôt un personnage, voire un narrateur adulte, qui très souvent retourne sur le lieu de son enfance. Et c'est un peu les romans qui ont ma prédilection, ce qui permet de confronter souvent les illusions ou les souvenirs du personnage et puis ce que peuvent être les lieux une fois qu'on devient adulte et que le temps a passé. Et par rapport à la question du pays natal, alors c'est une question qui est très forte notamment en Allemagne, puisqu'au début du XXe siècle il y a eu tout un courant qui s'appelle le Heimatkunst, donc c'est le Heimat, c'est le foyer, Donc c'est l'art de la célébration du foyer, on va dire. Et donc, par exemple, dans les romans de Hermann Hesse, on a vraiment ça. On a vraiment, d'une part, l'amour du pays natal. Et par exemple, dans Peter Clementine, c'est un roman d'apprentissage. Et donc, on suit le petit garçon qui vit très heureux dans son petit village dans les montagnes, ses apprentissages d'adulte à la ville, et puis finalement, son besoin de retourner dans son village natal, qui coïncide avec la fin de son apprentissage, et donc finalement, la découverte qu'on est heureux dans son pays d'origine, dans son pays natal, auprès des siens.
Oui, c'est ça que je me demandais, c'est est-ce que pour les écrivains du 20e siècle, c'est pas d'écrire la nature de leur enfance, c'est pas un moyen pour eux d'écrire des moments de leur apprentissage, des moments de, comme dans un roman d'apprentissage où il y a toutes les étapes qui leur ont permis de s'ouvrir au monde finalement.
Oui, ouais, je pense que c'est important. Il y a plusieurs romans d'apprentissage effectivement dans l'échantillon de romans que j'ai constitué. Et souvent, oui, souvent la nature fait partie. Le contact avec la nature fait partie des étapes qui vont former l'enfant. Alors, par exemple, dans Coming Up for Air de George Orwell, il explique comment sa géographie mentale se forme, c'est-à-dire comment, étant petit, il va commencer à s'élaborer une idée de ce qu'est sa maison, son village. Et puis chez Colette, par exemple, on a vraiment comment toute sa personnalité s'est formée au contact de la nature. Ce qui fait d'elle une sauvage, mais une charmante sauvage. Oui. Donc oui, effectivement, c'est un lien qui est important et qui l'a encore fait un peu écho aux idées de l'époque. Puisque, pareil, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de pédagogues qui s'intéressent à l'enfance, qui développent des idées sur ce qui est bon pour l'enfant. Et notamment, on a de plus en plus l'idée que il faut que l'enfant ait des espaces à lui et qu'il vive dans des espaces sains, et notamment à la campagne. Donc finalement, cette omniprésence de la campagne, notamment, elle s'explique aussi en partie par les idées, les nouvelles sur l'enfance.
Parce que tu m'as parlé avant l'émission de contexte socio-historique. Donc, qu'est-ce que tu as pu constater dans tes recherches par rapport justement à l'enfance dans la nature ?
Oui, alors c'est vrai que ce qui réunit les trois pays que j'étudie, c'est aussi ça, c'est aussi un contexte socio-historique commun, donc comme tu l'as dit, de deux guerres mondiales, d'une industrialisation, d'une urbanisation massive. Et en fait, l'hypothèse qu'on peut faire est que qui se vérifie et par la lecture des romans et par la lecture de nombreux ouvrages qui en viennent à la même conclusion, c'est qu'en fait, effectivement, le fait de représenter l'enfance, donc qui est un moment de la vie déjà passé souvent heureux et du moins associé à une image de bonheur, et de représenter l'enfance dans un cadre naturel lié, donc encore une fois, au bonheur, ça peut être un moyen de lutter contre le sentiment d'absurdité du monde, le sentiment de désenchantement, et voilà, la peur de la mort aussi, la peur du temps qui passe. Donc c'est vraiment, quand tu parlais de refuge, c'est aussi ça, c'est l'idée que représenter l'enfance dans ces lieux du bonheur, c'est aussi se réfugier contre un monde hostile.
Oui, c'est marrant, là je repense au contraste qu'on aurait avec des romans de Zola qui veut vraiment faire peur en disant oui, l'industrialisation galopante, c'est vraiment très effrayant et terrifiant. Et puis après, au XXe siècle, on commence à la discuter différemment, à en parler différemment.
Oui, ou en tout cas, oui, et c'est exactement ça, à l'appréhender différemment. On est moins à ce moment-là dans la dénonciation, en tout cas en ce qui concerne les romans sur l'enfance. Tu as tout à fait raison, quand tu parles de Zola, oui, il y a vraiment une rupture qui joue et qui est flagrante et qui est fascinante.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment une rupture nette et précise. Est-ce que tu as des lieux d'enfance? Moi, je pensais aux lieux d'enfance perdue, par exemple, cette image un peu d'Épinal de l'enfance perdue. Les lieux d'enfance aussi, je sais pas, labyrinthiques, des choses diverses, des symboles comme ça, c'est qui doivent revenir peut-être dans tes romans.
Est-ce que tu avais un exemple de lieu un peu labyrinthique auquel tu pensais?
Je sais pas, mais dans les romans que j'ai lus pour le XXe siècle, parfois j'ai l'impression que y a ce motif qui revient dans mon esprit où l'enfant est perdu. Et
Oui.
voilà, enfin, la perte de sens.
Oui, alors voilà, effectivement, ça c'est super intéressant et on parlait du grand monde tout à l'heure et dans ce sens-là, oui, pour le coup, l'enfant, dans le grand monde, c'est même des adolescents qui sont pris dans une quête et qui vont justement s'égarer. Enfin, Augustin Maun, c'est en s'égarant qu'il va découvrir le domaine mystérieux. Et en fait, bah, alors là, justement, ça rejoint le sujet de mon mémoire où j'étudiais comment l'égarement, finalement, donne son sens à la quête et permet l'initiation. Alors là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais du coup, pour répondre à ta question, il y a effectivement, c'est pas ce qui est le plus présent, mais il y a cette dimension un petit peu labyrinthique qui, dans de certains lieux, de certains espaces de l'enfance, qui va servir à réaliser l'initiation des personnages. Bah, typiquement, le grand monde, c'est vraiment l'exemple le plus pertinent.
Et dans leur relation aux arbres ou des choses comme ça.
Alors, ça, c'est amusant. Effectivement, les arbres sont assez souvent cités. Et souvent cités comme des objets d'affection des enfants et des narrateurs adultes qui s'en souviennent. Et notamment, ce que j'ai retrouvé, mais dans les trois pays, c'est le noyer, le vieux noyer, l'image du vieux noyer. Alors, je ne sais pas pourquoi forcément cet arbre-là, il faudrait se renseigner sur la symbolique, ce serait intéressant. Ça revient chez Thomas Mann, chez Colette, et chez d'autres encore. À chaque fois que leur narrateur évoque la nostalgie de leur jardin, de leur maison d'enfance, il parle aussi de leur vieux noyer. Donc oui, cette image de l'arbre, elle fait vraiment partie du paradis parfois perdu de l'enfance, ouais, complètement.
Oui, je crois que j'ai le souvenir d'une citation de Maupassant qui parle d'un noyer qui est très cher à son enfance, un noyer de sa terre natale, il me semble. Et il y a une thèse d'une historienne qui a été écrite sous la direction de Michel Pastoureau sur les noix et le noyer.
Ah, et bah écoute, ça peut m'intéresser pour.
C'est en plus l'histoire de la noix de l'Antiquité à nos jours. Donc c'est une symbolique qui passe d'une symbolique de la noix comme quelque chose de nocif, de nuisible, à nos jours où c'est devenu plutôt un bois, voilà, comme tu dis, précieux dans nos cœurs. On ne sait pas pourquoi, mais. Donc voilà. Oui, tu me parlais du mythe de l'âge d'or. Ça
Oui.
m'intéresse.
Oui, en fait, ce que je t'expliquais, donc, c'était que souvent, une grande partie de ces romans, puisque justement ils parlent d'une enfance heureuse, idyllique à la campagne, en fait, ils sont nourris par le mythe de l'âge d'or. C'est-à-dire que, donc, le mythe de l'âge d'or, pour le présenter un petit peu, c'est un mythe. C'est un mythe très ancien qui date de la civilisation sumérienne et qui a été un peu popularisé par les auteurs latins, par exemple notamment Virgile, Ovide, et qui en fait est le mythe qui présente un idéal de l'humanité heureuse dans un monde d'abondance, de justice et de paix. Donc typiquement, dans l'imaginaire contemporain, la comté dans le Seigneur des Anneaux, c'est ce monde de l'âge d'or. Et en fait, c'est un mythe qui à la base était plutôt religieux, c'était l'idée de l'harmonie entre les hommes, la nature et les dieux. Et aujourd'hui, ça a pris aussi une dimension un peu politique, puisqu'on en parle aussi, quand on l'évoque, c'est souvent justement par contraste avec ce qui nous déplaît, nous fait souffrir dans notre relation au monde, par exemple. Et donc, il y a de nombreux romans qui remobilise ce mythe de l'âge d'or en présentant donc les enfants comme les garants d'un lien harmonieux avec la nature. En fait, concrètement, ça va se matérialiser par un temps d'été permanent. Il fait toujours beau dans les romans de l'enfance, de cette époque. On a plutôt un temps cyclique que linéaire, c'est-à-dire qu'on va échapper à la mort, puisque c'est plutôt le temps des saisons qui nous intéresse. La vie au village aussi. Encore une fois, l'harmonie avec la nature qui là encore fait clairement aussi référence à des angoisses et à des aspirations contemporaines.
Mmh. Oui, moi j'avais... tu parlais un petit peu d'Ovid là, rapidement, c'est amusant parce que je m'en sers un petit peu aussi pour ma thèse. Dans les métamorphoses végétales, surtout, par exemple, le mythe de Daphné, des choses comme ça. Et on a l'impression que quand tous ces personnages mythologiques se transforment en végétal, c'est la nature refuge, c'est vraiment pour sauver la personne, s'échapper.
Oui.
Ça me fait penser à ça.
Et puis... J'avais de la masculinité toxique.
Oui, voilà, exactement. Ben, on la comprend, hein. Mais c'est vrai que c'est déjà... oui, c'est un... Pour l'époque, c'est déjà une image forte. Et je pensais, moi, l'image de la cabane qui est toujours dans la nature et qui est quand même quelque chose de l'enfance qui reste important pour tout le monde. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Oui, oui, tu as tout à fait raison. En plus, c'est vrai qu'avec ma thèse, je demande régulièrement aux gens qui m'entourent de parler de leur lieu de l'enfance. Et voilà, la cabane revient régulièrement. Après, étonnamment, dans les romans, c'est pas le lieu le plus présent. Alors, j'ai trouvé par exemple chez Henri Bosco, dans le jardin d'Hyacinthe, où il y a une cabane qui s'appelle Noir Asile, qui est tout au fond du jardin, qui est un petit peu mythifiée. Voilà, c'est la cabane où seule la petite fille peut rentrer. Et puis on l'a par exemple dans La Guerre des Boutons, où les enfants vont essayer de se construire. Alors, c'est même au-delà de la cabane, c'est vraiment une caverne qui va garder leur trésor. Mais c'est pas l'image la plus fréquente.
Mmh. Oui, parce que la cabane, c'est dans la nature, mais c'est réservé à l'enfant, quoi. Il n'y a pas d'adulte qui peut entrer.
Oui, exactement. Bah, typiquement, quand tu me parlais des lieux du refuge, là, c'est le refuge du monde adulte aussi.
Enfin. C'est comme dans le Grand Maulne, il y a peu d'adultes. Enfin, il y en a, mais c'est pour faire un contraste, justement, avec... ce monde merveilleux où il n'y a que des enfants.
Oui, exactement. Il y a un auteur qui a montré que la figure du père ou des pères était absente du Grand Maulne. Alors, il y a son père instituteur, mais c'est comme tu dis, c'est la liberté est laissée aux enfants ou à ces adolescents qui ont encore quelque chose de l'enfance. Et ça, c'est super intéressant, oui.
La guerre des boutons, de Louis Pergaud. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 1er. La déclaration de guerre. C'était un matin d'octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l'horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d'abord, qui s'accentuait d'un seul coup comme un plongeon d'épervier, dès que l'angle de chute devenait moins obtus. L'air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde qui se prolongeait de temps à autre, quand la gerbe était dévorée, en une plainte lugubre comme un sanglot désespéré d'agonie ou un vagissement douloureux. L'été venait de finir et l'automne naissait. Il pouvait être 8 heures du matin. Le soleil rôdait, triste derrière les nues, et de l'angoisse, une angoisse imprécise et vague, pesait sur le village et sur la campagne. Les travaux des champs étaient achevés et... un à un ou par petits groupes, depuis 2 ou 3 semaines, on voyait revenir à l'école les petits bergers à la peau tannée, bronzés de soleil, aux cheveux drus coupés ras à la tondeuse, la même qui servait pour les bœufs, aux pantalons de drogué ou de moulinet rapiécé, surchargés de patins aux genoux et au fond, mais propres, aux blouses de grisette neuve, raides, qui, en déteignant, leur faisaient les premiers jours les mains noires comme des pattes de crapaud, disait-il.
Alors, il y a un roman qui m'a particulièrement intéressée, oui, sur la représentation de la montagne. C'est un roman d'Aragon qui s'appelle Les Voyageurs de l'Impérial, qui est génial, je le conseille à tes auditeurs.
D'accord.
Qui ne parle pas que de l'enfance, mais qui a toute une partie réservée aux vacances du personnage qui s'appelle Pascal, un petit garçon. Et donc, en fait, c'est une vacance dans un château qui est juste à côté d'une montagne. Et en fait, Aragon explique que cette montagne, c'est le meilleur de la vie du petit Pascal. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que pour parler de cette montagne, Aragon utilise justement plein de références intertextuelles, par exemple au Chevalier de la Table Ronde ou encore au Conte de Fées. Et ça, c'est une des premières choses qui m'a fascinée quand j'ai commencé ma thèse, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on parle des lieux de l'enfance, on les métamorphose, on les transforme, soit en les idéalisant, comme je parlais avec les stéréotypes, les topoïs du mythe de l'âge d'or, soit en faisant référence à des imaginaires comme les contes de fées ou Robinson Crusoe, ça revient tout le temps. Et donc, on parle de lieux qui sont des lieux qui ont des référents réels, des lieux du quotidien, mais par l'écriture, les romanciers les transforment systématiquement et en font des lieux un petit peu magiques, et en tout cas, autres étrangers au monde que nous on peut connaître.
Et ça me fait penser, tu disais d'ailleurs tout à l'heure, tu parlais de la comté dans Tolkien. Et c'est un peu le XXe siècle, c'est un peu une époque aussi où le fantastique arrive et est beaucoup plus figuré dans les romans. Pour adultes d'ailleurs, des romans qui sont lus plutôt pour les adultes, après parce qu'ils sont compliqués à comprendre finalement pour les enfants. Et est-ce que ces espaces un peu fantastiques, c'est pas un retour à l'enfance pour eux?
Oui, t'as raison, il y a sans doute quelque chose de ça. Alors, moi, ce que j'ai constaté dans les romans que j'étudiais, c'était un recours au réalisme magique, c'est-à-dire on va faire intervenir des choses qui paraissent au lecteur surnaturelles, par exemple dans Dick Lane et Passion, dans la forêt, le chien du petit enfant peut se mettre à parler. Et on va les présenter comme n'étant pas surnaturels. Le narrateur ne va pas s'en étonner. Donc, en fait, effectivement, je pense que le fantastique, le merveilleux, on nourrit aussi les imaginaires de ces romanciers-là et qu'on y trouve et qu'on y puise une autre façon de dire le monde, de dire l'existence. Et là encore, on retrouve l'idée du refuge ou du réenchantement. Voilà, c'est l'idée toujours de vouloir remettre un peu de magie dans les lieux du quotidien, dans mon cas.
Mmh. Et donc tu me disais avant l'enregistrement que y avait peu d'auteurs du XXe siècle qui parlaient de ces grandes crises qu'ils ont traversées, des guerres en fait. Mais est-ce que quand même tu as ressenti dans certains passages l'impact de ces guerres chez eux?
Alors, par exemple, dans Coming Up for Air de George Orwell, qui est un de mes romans préférés de mon corpus, celui que je recommande également.
D'accord.
Donc, en fait, c'est l'histoire d'un commercial qui a 40 ans, qui n'aime plus sa vie, voilà, il est lassé de son existence, et il commence à repenser à son enfance. Donc, le narrateur raconte toute son enfance d'une façon complètement idéalisée, en ayant conscience tout de même que ses souvenirs peuvent le tromper. Et il décide finalement justement de faire retour, de retourner dans son village natal. Et bien sûr, tout a changé, donc il est en pleine désillusion. Et en fait, le roman se termine avec l'explosion d'une bombe dans le village. Et du coup, c'est particulièrement significatif de la façon, on est en 1939 hein, quand le roman est publié, donc c'est très révélateur de la façon dont la guerre et le traumatisme qui commence et qui approche, et puis celui de la Première Guerre mondiale de toute façon, vient en fait littéralement briser les lieux de l'enfance détruire même les lieux de l'enfance et justement toutes les illusions qu'on pouvait avoir par rapport à ce monde idéal.
Mmh. C'est marrant parce que quand j'ai lu La ferme des animaux, je l'ai lu quand j'étais adulte, mais j'avais l'impression que c'était des enfants qui parlaient.
Ah oui.
Donc je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a un lien vraiment particulier avec cette désillusion
adulte-enfant. Oui, peut-être qu'il y a une sensibilité effectivement par rapport au discours, au regard enfantin. Ouais, bah écoute, je relirai La ferme des animaux.
Oui, ça fait un peu cours de récréation où en fait, quand on se souvient de nos cours de récréation, c'était un peu martial aussi, une organisation un petit peu militaire. Donc voilà, moi quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, c'est une cour de récréation en fait, c'est des enfants. Mais ouais, je pense que lui, il était visionnaire, il avait une vraie vision de sa société qui était en plein délitement en fait.
Ouais. Mm-mm. Et après comme je t'ai dit, c'est plutôt dans les romans allemands où vers 1945 on commence à avoir vraiment des romans qui associent l'enfance à la guerre. Où un petit garçon par exemple va devoir faire tout le pays pour rejoindre une tante parce qu'il a perdu sa famille, etc. Là et puis le nazisme commence à apparaître dans les représentations, ce qu'on a vraiment très très peu avant. Et ouais.
Oui.
C'est là où moi je vois une rupture aussi, c'est que finalement la Première Guerre mondiale évidemment était traumatique, mais dans les romans sur l'enfance elle est moins évidente, enfin elle est moins évoquée, elle a moins une influence sur les représentations, alors que la Seconde Guerre mondiale va vraiment bouleverser le rapport des écrivains au langage et aussi à l'enfance en fait, et la façon d'écrire l'enfance.
Oui, il y a un retour un peu à la violence du 19e siècle.
Oui, et qui va même plus loin parce qu'ils vont même contester le langage lui-même. On ne peut plus parler de la même façon après Auschwitz, et donc on ne peut plus parler de la même façon de l'enfance. Avant, on avait l'idée que l'enfance était perdue, mais par l'écriture, on pouvait la retrouver. Et même si j'étudie moins les romans d'après 1950, on constate que l'enfance est définitivement perdue et que même par l'écriture, l'écriture ne peut même plus reconvoquer ce qui a été perdu.
Est-ce que dans les romans que tu as étudiés dans ton corpus, il y a une conscience que aussi la nature est pas en danger, peut-être à cette époque, mais qu'elle tend à disparaître, quelque chose comme ça, de cet ordre-là?
Eh bien écoute, j'ai l'impression que oui. Par exemple, chez Hermann Hesse, il y a certains de ses romans où il va clairement parler en termes négatifs de l'industrialisation du monde, de la société. Et en fait, dans tous les romans, enfin dans beaucoup, beaucoup de romans, il y a de toute façon une opposition très claire entre justement la nature et ses bienfaits et la ville comme antithèse du monde heureux. Alors il y a un chercheur qui s'appelle Richard Coe qui développe une théorie qui est vraiment passionnante par rapport à ça. En fait, il parle de black nostalgia. C'est-à-dire que pour lui, toute cette nostalgie dont on vient de parler, qui irrigue les romans sur l'enfance et sur les lieux de l'enfance, elle a une valeur de contestation. C'est-à-dire qu'on va présenter des romans de l'enfance heureuse dans la nature, pas seulement pour se réfugier, pour fuir le monde, mais aussi, alors je ne sais pas s'il y a un discours écologique, mais dans la théorie que lui proposait, il était là. C'est-à-dire pour contester ce rapport qui est maintenant rationnel et violent à la nature.
Mmh. Oui, le rapport aussi matérialiste à la nature qui a dû bouleverser aussi le XXe siècle, enfin, dès le XIXe, je pense d'ailleurs. Oui, je me demandais si tu trouvais une différence entre les lieux. Parce que tu fais les lieux de l'enfance, mais est-ce qu'il y a une différence entre les lieux les espaces naturels et les lieux de l'intimité, les lieux domestiques de l'enfance intérieure en fait?
Oui, alors c'est vrai que je m'intéresse aussi à ça. Alors, on va retrouver un petit peu des lieux que Bachelard évoquait dans la poétique de l'espace. En fait, c'est vrai que l'enfance, quand elle est heureuse, elle est souvent, c'est un peu bateau, mais pour le coup, ça se retrouve systématiquement dans ce roman-là, c'est qu'elle est montrée associée au foyer, c'est-à-dire au cocon protecteur, donc la maison, encore une fois, un monde en miniature. Et alors j'étudie aussi l'école, un petit peu les recettes de l'école. C'est très ambivalent pour le coup. On a un peu moins cette image de l'école qui est forcément une prison qu'il y avait au 19e siècle. Par exemple, chez Colette, c'est vraiment le lieu qui est associé aussi au bonheur de l'enfance. Mais ça reste un peu plus ambivalent. Mmh. Et du coup, oui, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à cerner comment se construisent ces représentations du monde de l'enfance qui sont à la fois des espaces naturels et des espaces intérieurs du quotidien, en fait.
Mmh. Ouais, c'est très intéressant.
Merci.
Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, autre chose.
Non, à part conseiller à tous ceux qui le souhaitent de lire plein de romans sur les lieux de l'enfance, Colette, George Orwell, Proust, voilà, pour passer des bons moments.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques dans la barre de description du podcast et sur le site web dédié au podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt dans le podcast Histoire Naturelle.